James Rousseau, Monsieur de Paris. Le prince de l'Église et l'exécuteur des hautes œuvres, l'homme du ciel avec sa parole toute évangélique et l'homme de la terre avec sa mission toute de douleur et de sang, celui qui prie pour l'âme, celui qui détruit le corps. L'un portant ses regards vers ce qu'il y a de plus haut, l'autre forcé de les tourner vers ce qu'il y a de plus bas. Et tous deux, par un étrange abus de mots, par un renversement de toute idée, de toute logique, tous deux appelés du même nom. Bossuet, monsieur de Meaux, Samson, monsieur de Paris. L'évêque et le bourreau, l'échafaud et l'église. L'exécuteur de la justice est plus qu'aucun autre du nombre de ces hommes qui ne seront jamais appréciés comme ils doivent l'être et que leur position condamne à demeurer sous le poids d'éternels préjugés. À son nom, vous verrez frémir tout un auditoire. Vous verrez les assistants se serrer les uns contre les autres comme s'ils entendaient une histoire de revenants racontée dans la grande salle d'un château gothique, ou comme ces enfants que leur bonne menace du fameux croque-mitaine. Cette horreur soudaine s'explique. Le nom de l'exécuteur rappelle une mission de mort. Il évoque dans l'âme d'affreux souvenirs. Il fait disparaître, apparaître aux yeux une fantasmagorie sanglante. Vous voyez l'échafaud, la planche d'un rouge-noir, dont une nouvelle couche de sang va raviver la couleur. Vous voyez le coffre de plomb où vient se précipiter une tête fortement lancée loin du corps, du tronc. Vous voyez un néant anticipé succéder à une vie pleine de jours. Doit-on s'étonner, après cela, que des hommes forts d'une organisation supérieure aient frappé d'anathème l'instrument vivant de la justice terrestre, celui sans lequel à Dieu seul resterait le droit de venger l'innocent en frappant le coupable. Il y a deux hommes dans cet homme, l'être créé, l'égal de tous devant Dieu, devant la loi, et l'être à part, le terrible intermédiaire entre le crime et le châtiment, n'agissant que dans l'intérêt de la société qui le rejette, et lui rendant en pénible service ce qu'il en recueille en dédain. Il est bien difficile de prendre de lui une idée juste et raisonnable. Ses fonctions s'adressent trop à ce sentiment intime qui vient de l'âme pour que la raison préside au jugement que l'on emporte. On n'est pas toujours le maître de se faire une opinion entre celle de l'illustre auteur des soirées de Saint-Pétersbourg et celle du chantre de Julie. S'il ne faut pas, comme M. de Maistre, voir dans la famille de l'exécuteur une femelle et des petits, il faut aussi se défier de la sophistique philosophie de Jean-Jacques Rousseau, et même sans être roi, rêver pour son fils une autre épouse que la fille du bourreau. La charge d'exécuteur des hautes œuvres n'a pas toujours été soumise à l'état d'abaissement. Nous la voyons aujourd'hui. Chez les Israélites, les sentences de mort étaient exécutées par tout le peuple ou par les accusateurs du condamné ou par les parents de l'homicide, si la condamnation était pour meurtre, ou par d'autres personnes selon les circonstances. Le prince donnait souvent à ceux qui étaient auprès de lui, et surtout aux jeunes gens, la commission d'aller mettre quelqu'un à mort. On en trouve beaucoup d'exemples dans l'Écriture. Et loin qu'il y eût aucune infamie attachée à ces exécutions, chacun se faisait gloire d'y prendre part. Chez les Grecs, l'office du bourreau n'était point méprisé. Aristote dans ses Politiques, mais l'exécuteur au nombre des magistrats. Il dit même que par rapport à sa nécessité, on doit le mettre au rang des principaux offices à Rome, outre les licteurs. On se servait quelquefois du ministère des soldats pour l'exécution des criminels, non seulement à l'armée, mais à la ville même, sans que cela le déshonorât en aucune manière. Chez les anciens Germains, la charge d'exécuter était exercée par les prêtres, par la raison que ces peuples regardaient le sang des coupables et des ennemis comme l'offrande la plus agréable aux dieux de leur pays. Anciennement, les juges exécutaient souvent eux-mêmes les condamnés. L'histoire sacrée et l'histoire profane en fournissent plusieurs exemples. En Allemagne, avant que cette fonction eût été érigée en titre d'office, le plus jeune de la communauté ou du corps de ville en était chargé. En Franconie, c'était le nouveau marié. À Rüdinghe, ville impériale de Souabe, c'était le dernier conseiller reçu. Et à Stetten, petite ville de Thuringe, l'habitant qui était le plus nouvellement établi dans la ville. En Russie, la charge d'exécuteur n'existe pas. Les exécutions sont confiées chaque fois à un prisonnier. Cette mission d'un instant lui mérite grâce pleine et entière. En France, l'exécuteur de la haute justice avait autrefois droit de prise, comme le roi et les seigneurs, c'est-à-dire de prendre chez les uns et chez les autres, dans les lieux où il se trouvait, les provisions qui lui étaient nécessaires, en payant néanmoins dans le temps du crédit qui avait lieu pour ses emprunts forcés. Les lettres de Charles VI, du 5 mars 1398, qui exemptent les habitants de Charny et de Leil, près de Paris, du droit de prise, défendent à tous les maîtres d'hôtel du roi, à tous les fourriers et chevaucheurs, les écuyers, à l'exécuteur de la haute justice et à tous nos autres officiers et à ceux de la reine, aux princes du sang et aux autres qui avaient accoutumé d'user de prise, d'en faire aucune sur les 10 habitants. L'exécuteur se trouve là, comme on voit, en assez bonne compagnie. Plus tard, le métier de bourreau tomba dans le plus complet avilissement. Il ne fut un peu relevé qu'en 1790, époque où l'Assemblée nationale, sur la proposition de Maton de la Varenne, appuyé par Mirabeau, décréta qu'elle avait entendu comprendre les exécuteurs dans le nombre des citoyens. Depuis longtemps, j'étais curieux de connaître cette puissance occulte qui est comme le premier anneau de la chaîne sociale. Je voulais voir dans son intérieur, entouré de sa famille, celui dont le monde savait une si prodigieuse idée. Je voulais l'entendre parler de ses terribles fonctions, recueillir de sa bouche des paroles humaines. James Rousseau, Monsieur de Paris, le prince de l'Église et l'exécuteur des hautes œuvres, l'homme du ciel avec sa parole toute évangélique et l'homme de la terre avec sa mission toute de douleur, et de sang. Celui qui prie pour l'âme, celui qui détruit le corps. L'un portant ses regards vers ce qu'il y a de plus haut, l'autre forcé de les tourner vers ce qu'il y a de plus bas. Et tous deux, par un étrange abus de mots, par un renversement de toute idée, de toute logique, tous deux appelés du même nom. Bossuet, monsieur de mots, Samson, monsieur de Paris, l'évêque et le bourreau, l'échafaud et l'église. L'exécuteur de la justice est plus qu'aucun autre du nombre de ces hommes qui ne seront jamais appréciés comme ils doivent l'être, et que leur position condamne à demeurer sous le poids d'éternels préjugés. À son nom, vous verrez frémir tout un auditoire. Vous verrez les assistants se serrer les uns contre les autres, comme s'ils entendaient une histoire de revenants racontée dans la grande salle d'un château gothique, ou comme ces enfants que leur bonne menace du fameux croque-mitaine. Cette horreur soudaine s'explique. Le nom de l'exécuteur rappelle une mission de mort. Il évoque dans l'âme d'affreux souvenirs. Il fait disparaître, apparaître aux yeux une fantasmagorie sanglante. Vous voyez l'échafaud ou la planche d'un rouge noir dont une nouvelle couche de sang va raviver la couleur. Vous voyez le coffre de plomb où vient se précipiter une tête fortement lancée loin du corps, du tronc. Vous voyez un néant anticipé succéder à une vie pleine de jours. Doit-on s'étonner, après cela, que des hommes forts d'une organisation supérieure aient frappé d'un anathème l'instrument vivant de la justice terrestre, celui sans lequel à Dieu seul resterait le droit de venger l'innocent en frappant le coupable? Il y a deux hommes dans cet homme. L'être créé, l'égal de tous devant Dieu, devant la loi, et l'être à part, le terrible intermédiaire entre le crime et le châtiment, n'agissant que dans l'intérêt de la société qui le rejette, et lui rendant en pénible service ce qu'il en recueille en dédain. Il est bien difficile de prendre de lui une idée juste et raisonnable. Ses fonctions s'adressent trop à ce sentiment intime qui vient de l'âme pour que la raison préside au jugement que l'on emporte. On n'est pas toujours le maître de se faire une opinion entre celle de l'illustre auteur des soirées de Saint-Pétersbourg et celle du chantre de Julie. S'il ne faut pas, comme M. de Maistre, voir dans la famille de l'exécuteur une femelle et des petits, il faut aussi se défier de la sophistique philosophie de Jean-Jacques Rousseau, et même sans être roi, rêver pour soi ou fils une autre épouse que la fille du bourreau. La charge d'exécuteur des hautes œuvres n'a pas toujours été soumise à l'état d'abaissement. Nous la voyons aujourd'hui. Chez les Israélites, les sentences de mort étaient exécutées par tout le peuple ou par les accusateurs du condamné ou par les parents de l'homicide, si la condamnation était pour meurtre ou par d'autres personnes selon les circonstances. Le prince donnait souvent à ceux qui étaient auprès de lui et surtout aux jeunes gens la commission d'aller mettre quelqu'un à mort. On en trouve beaucoup d'exemples dans l'Écriture. Et loin qu'il y eût aucune infamie attachée à ces exécutions, chacun se faisait gloire d'y prendre part. Chez les Grecs, l'office du bourreau n'était point méprisé. Aristote dans ses Politiques met l'exécuteur au nombre des magistrats. Il dit même que, par rapport à sa nécessité, on doit le mettre au rang des principaux offices. À Rome, outre les licteurs, on se servait quelquefois du ministère des soldats pour l'exécution des criminels, non seulement à l'armée, mais à la ville même, sans que cela le déshonorât en aucune manière. Chez les anciens Germains, la charge d'exécuter était exercée par les prêtres, par la raison que ces peuples regardaient le sang des coupables et les ennemis comme l'offrande la plus agréable aux dieux de leur pays. Anciennement, les juges exécutaient souvent eux-mêmes les condamnés. L'histoire sacrée et l'histoire profane en fournissent plusieurs exemples. En Allemagne, avant que cette fonction eût été érigée en titre d'office, le plus jeune de la communauté ou du corps de ville en était chargé. En Franconie, c'était le nouveau marié. À Rüdling, ville impériale de Souabe, c'était le dernier conseiller reçu. Et à Stetten, petite ville de Thuringe, l'habitant qui était le plus nouvellement établi dans la ville. En Russie, la charge d'exécuteur n'existe pas. Les exécutions sont confiées chaque fois à un prisonnier. Cette mission d'un instant lui mérite grâce pleine et entière. En France, l'exécuteur de la haute justice avait autrefois droit de prise, comme le roi et les seigneurs, c'est-à-dire de prendre chez les uns et chez les autres, dans les lieux où ils se trouvaient, les provisions qui lui étaient nécessaires, en payant néanmoins dans le temps du crédit qui avait lieu pour ses emprunts forcés. Les lettres de Charles VI, du 5 mars 1398, qui exemptent les habitants de Charny et de Ley, près de Paris, du droit de prise, défendent à tous les maîtres d'hôtel du roi, à tous les fourriers et chevaucheurs, les écuyers, à l'exécuteur de la haute justice et à tous nos autres officiers et à ceux de la reine, aux princes du sang et aux autres qui avaient accoutumé d'user de prise, d'en faire aucune sur les 10 habitants. L'exécuteur se trouve là, comme on voit, en assez bonne compagnie. Plus tard, le métier de bourreau tomba dans le plus complet avilissement. Il ne fut un peu relevé qu'en 1790, époque où l'Assemblée nationale, sur la proposition de Maton de la Varenne, appuyé par Mirabeau, décréta qu'elle avait entendu comprendre les exécuteurs dans le nombre des citoyens. Depuis longtemps, j'étais curieux de connaître cette puissance occulte qui est comme le premier anneau de la chaîne sociale. Je voulais voir dans son intérieur, entouré de sa famille, celui dont le monde savait une si prodigieuse idée. Je voulais l'entendre parler de ses terribles fonctions, recueillir de sa bouche des paroles humaines. Ne connaissant personne qui pût me présenter à lui, je me décidai à me servir d'introducteur à moi-même. Et un matin, je me dirigeai, non sans quelque émotion, du côté de la rue des Marais du Temple. Arrivé devant le numéro 31 bis, j'aperçus une petite maison protégée par une grille de fer dont les interstices en bois ne permettent pas à l'œil de pénétrer dans l'intérieur. Cette grille ne s'ouvre pas. On entre dans le sanctuaire par une petite porte qui s'y trouve attendante et à droite de laquelle est la sonnette. Au milieu de cette porte est une bouche de fer entièrement semblable à une poste aux lettres. Et c'est là que l'on dépose les missives que le procureur général envoie à l'exécuteur pour le prévenir que l'on va recourir à l'appui de son bras. Je pressai doucement le bouton de la sonnette, et pour s'ouvrir la porte, un homme d'une trentaine d'années, grand et vigoureux, me demanda fort poliment ce que je désirais. « Monsieur Harry Samson, » répondis-je d'une voix tremblante. « Entrez, monsieur, » me dit mon guide. C'était un des aides de l'exécuteur. Je pus dès ce moment même me convaincre comment le monde a une idée fausse de ce qu'il ne connaît pas et du peu de fondement de certains proverbes populaires. Je ne sais si le moutardier du pape est fier, mais je puis répondre que les valets du bourreau ne sont pas insolents. Parmi les croyances superstitieuses qui règnent sur les devoirs de l'exécuteur, il en est une qui est généralement accréditée. Je parle de l'obligation où serait le fils de succéder à son père, de la perpétuité de la charge dans la famille. Mais rien de plus faux. On ne peut forcer un homme qui n'a encouru aucune condamnation à une époque où le dernier des citoyens a la conscience de ses droits civils et politiques, a embrassé une profession contre son gré. Il faut chercher une part à cause de l'acceptation que fait toujours le fils du bourreau du sanglant héritage de son père. L'exécuteur vit en dehors du monde. Sa seule société après sa famille, ce sont des bourreaux. Ses alliances, il va les chercher parmi les bourreaux. Est-ce sa faute à lui si vous n'avez pas fait un homme à part? Y donneriez-vous votre fils? Rechercheriez-vous la raison même de son fils? Le sauriez-vous dans votre salon? Son arrivée dans un lieu où vous seriez ferait courir un long frissonnement dans toutes les veines. Si on vous disait que le lion du jardin des plantes vient de briser ses barreaux. Cependant, c'est un homme comme vous. Il a besoin d'amitié, d'amour. Il ne peut en demander qu'à des âmes faites comme la sienne. C'est une famille de chandalas au milieu d'un cas de brahmin. Et puis que l'on ne croit pas que la charge de bourreau puisse jamais venir à faillir. Il y a quelques années, quand Monsieur de Versailles vint à mourir sans laisser de successeur naturel, 187 pétitions demandèrent sa place. Les postulants étaient pour la plupart d'anciens militaires et surtout des bouchers. Cette idée est affreuse. Serait-il possible que tous les hommes eussent propre à faire des bourreaux et que la seule habitude de sang leur manquât? Je reviens à ma visite. On m'introduisit dans une petite salle basse où je vis occupé à lire au tiré d'un piano des sons qui n'étaient pas sans mélodie, un homme paraissant avoir 60 ans, une figure pleine de franchise et de douceur. C'était lui. Dans la même pièce, c'était son fils, un jeune homme d'environ 34 ans, blond, l'air timide et doux. Il tenait sur ses genoux une petite fille de 10 à 12 ans, jolie comme un ange, de la physionomie la plus vive et la plus distinguée. C'était la sienne. Ce tableau de famille me frappa. Monsieur Sanson parut s'en apercevoir. Et le fait est que, sans partager l'opinion irréfléchie de la multitude, je m'étais fait une toute autre idée du spectacle qui frappait mes yeux. Cette petite fille surtout, elle bouleversait toutes mes idées. Je n'aurais pas voulu que quelque chose de si frais se rencontrât là. C'était le soleil traversant un orage, une roue rose élevant sa tige entre les pierres d'un tombeau. Et depuis plusieurs années, c'est le fils de M. Sanson qui remplit la charge de son père. Appelé à lui succéder, par ces raisons que je disais tout à l'heure, il fait sous les yeux du titulaire l'apprentissage du sang. Ce dernier assiste en effet à toutes les exécutions. La justice ne connaît que lui. Il est le seul responsable devant elle des infractions qui pourraient avoir lieu. Monsieur Sanson me reçut en homme qui sait son monde, sans embarras, comme sans affectation, et s'informa du motif de ma visite. Ma fable était faite. Je lui dis que, m'occupant d'un ouvrage sur les supplices, aux différentes époques de notre législation, j'avais assez compté sur sa complaisance pour venir lui demander quelques renseignements. Le ton aimable avec lequel il me répondit qu'il était tout à ma disposition me mit tout de suite à mon aise. Je ne m'entins pas aux questions que devait comporter le motif que j'avais donné à ma visite. Et dans une conversation de près de 2 heures, je pus remarquer la justesse d'esprit et la pureté de vue de Monsieur de Paris. Monsieur Samson ne se dissimule pas la gêne de la position dans laquelle le sort l'a placé. Il la supporte, non pas en homme qui en méprise les conséquences, mais en sage qui sent ce qu'il vaut, qui comprend que nous pouvons toujours, avec une volonté, nous élever au-dessus de l'état de la naissance, nous a fait, et que les sentiments du cœur, les conseils de la raison, nous classent dans le monde en dépit de la direction imprimée à nos mouvements. Cette conscience qui le relève à ses propres yeux ne lui fait jamais oublier la distance que la société a mise entre elle et lui. Si on pouvait en instant la perdre de vue, M. Samson prendrait soin lui-même de vous la rappeler. Une chose me frappa. Il avait souvent ouvert sa tabatière devant moi sans me la présenter. Cette dérogation aux usages reçus parmi les priseurs, à cette politesse qui n'en est plus une depuis que s'est développée une habitude, m'avait surpris sans que je puisse me l'expliquer. Et tout à coup, sans but aucun, machinalement, au milieu d'une conversation qui ôtait l'âme à mes mouvements, je lui offre du tabac. Il élève sa main en signe de refus, avec une expression de physionomie qu'il est impossible de rendre et qui me fit froid. Le malheureux, un souvenir d'hier venait de lui mettre son doigt. Monsieur Samson aime à causer, peut-être parce qu'il a lu beaucoup et avec fruit. Il possède en effet une bibliothèque nombreuse et choisie, qui n'est pas chez lui un objet de luxe. Ses livres ont toute sa société. Par leur secours, il peut échapper à la gêne et à l'humiliation, s'entretenir avec les hommes qui la composent, leur demander des distractions à ces terribles deux au revoir, des constatations et des consolations contre les mépris de son siècle, des arguments pour ceux qu'il aime, du repos pour ses jours et du sommeil pour ses nuits. Paria de la civilisation, exclu de la société des vivants, il en retrouve une dans la compagnie morte de nos grands hommes. Et cela, il peut les regarder sans frémir, ils ne sont pas morts de sa main. Parmi les ouvrages qui composent la bibliothèque de l'écouteur, exécuteur, il y en a deux que je ne serais pas venu chercher là. Les œuvres de M. de Maistre et Le dernier jour d'un condamné. L'examen des livres de M. Samson me fournit un sujet de causerie que je fus bien aise d'avoir trouvé. Jusqu'à ce moment, la conversation avait langui. N'avait pas osé le presser de questions, et lui-même, avec ce tact qui le caractérise, avait évité de parler de tout ce qui pouvait se rattacher à sa mission. Dès que je lui mis sur le chapitre de la littérature, il s'abandonna entièrement. La contrainte qui s'était imposée jusque-là disparut tout à coup. Il émit des principes, discuta mes opinions en homme qui s'est rendu compte, et à travers quelques hérésies qui tiennent au manque d'instruction première, il avança des jugements dont se ferait honneur un membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Ce petit cours littéraire fit promptement disparaître ce que, jusqu'alors, notre tête-à-tête avait eu de gênant et de guindé. On aurait dit que nous nous connaissions depuis 10 ans. M. Samson se montra à découvert et je pus l'examiner à mon aise. Il semblerait que la nature de ses fonctions, les gens avec lesquels le mettent incessamment en rapport, ont dû détruire chez lui tout sentiment d'humanité. Mais bien loin de là, ils ont développé dans son âme une sensibilité extrême. Ce même homme qui va froidement surveiller tous les apprêts d'un supplice, monter pièce à pièce l'affreuse machine de destruction. Graisser les cordes, consulter du doigt le tranchant de la hache, faire partir d'une main assurée et la détente qui va rendre à la terre l'ouvrage du ciel, ce même homme ne pourra retenir ses larmes quand vous lui rappellerez le souvenir de quelque exécution. Vous l'entendrez s'élever avec une jeune énergie contre la peine de mort, développer avec vivacité les moyens qui pourraient la remplacer le plus efficacement. Vous le verrez un jour de grève, pâle et défait, refusant toute nourriture, mort comme s'il avait changé de rôle, comme si l'autre était le bourreau. Voilà ce qu'on ne sait pas. Voilà ce que je n'aurais pas cru moi-même si je ne l'avais pas vu. Et c'est ce qu'auraient dû voir ceux qui, de toute l'autorité de leur talent, ont pesé sur l'instrument de justice en se prosternant de respect devant la main qui le fait agir. Il me raconta une foule de particularités sur les derniers moments de quelques condamnés célèbres. Je ne les rapporterai pas ici. Parmi des détails quelquefois touchants, quelquefois burlesques, toutes ces histoires offrent quelque chose de pénible et de forcé. C'est comme le rire d'un pendu. Ce que je dirais seulement, c'est à quelles circonstances il est dû que, maintenant, l'échafaud soit démonté et remis en place tout de suite après l'exécution. Autrefois, il restait là pendant plusieurs heures. C'était une attention fort délicate pour les assistants. La tragédie est courte, il fallait bien laisser jouir du spectacle des décors. Seulement, un cadenas comprimait la détente qui laisse partir l'instrument oblique. En 1797, après une exécution, le bourreau et ses aides s'étaient retirés au premier étage du cabaret situé à l'angle de la place de Grève et du quai Pelletier. Ils causaient, ils buvaient, ils riaient peut-être. On frappe à la porte du cabinet. C'est un homme, une espèce d'ouvrier, qui vient prier M. Samson de lui confier la clé qui retient le couperet de l'échafaud. Un garçon perruquier vient d'être arrêté au moment où il volait une montre au milieu de la foule qui s'écoulait après l'exécution. Et le peuple, dans sa justice expéditive, avait pris le coupable, l'avait hissé sur l'échafaud, couché sur la planche, roulé sous le couteau, et sa tête allait tomber, sans la précaution qu'on prenait toujours, sans doute, par instinct. L'exécuteur, qui était venu ouvrir lui-même, répondit à cette demande atrocement singulière que M. Samson était sorti, que lui seul avait la clé et qu'il reviendrait dans 2 ou 3 heures. Il fallait se résigner. La foule s'écoula peu à peu, mais le patient, promis à la mort, était toujours dans son affreuse position. Enfin, après un temps dont on ne peut calculer la longueur, si l'on veut de là-dessus même se mettre à la place du pauvre diable, on vint le délivrer. Rien ne peut rendre son état et ce qu'il avait dû souffrir dans cette lente agonie. Et quand on pense que ce fait s'est passé peu d'années après la Révolution, le sang avait coulé pendant 2 ans, les supplices avaient été organisés d'une façon régulière, et le peuple n'était rassasié encore, ni de sang, ni de supplice. Moins par curiosité que pour rappeler à M. Samson le but de ma visite, je le priai de me faire voir la chambre où il tient enfermés les instruments destinés aux différents genres de supplices usités autrefois. La vue de ce musée me glaça d'horreur. Une seule chose dans ce sanglant conservatoire mérite qu'on en parle. C'est le sabre avec lequel M. le marquis de Lally fut décapité. Il fit faire exprès, et il fut fendu 3 fois avant qu'on pût en trouver un convenable. À cette époque, lorsqu'une exécution remarquable avait lieu, les jeunes seigneurs montaient sur la plateforme de l'échafaud, comme ils allaient le soir à la Comédie-Française s'étaler sur les banquettes qui garnissaient la scène. Le jour où M. de Lally subit son jugement, la foule était plus considérable que de coutume. Un des plus empressés à l'horrible fête froissa le bras de l'exécuteur au moment où l'arme homicide se balançait au-dessus de la tête du patient. La secousse fit dévier l'arme, qui, au lieu de frapper la nuque, rencontra le cervelet et vint s'arrêter sur la mâchoire de la victime, sans trancher entièrement sa tête. La lame de sabre fut ébréchée par ce contact d'une dent contre laquelle elle frappa, et un des aides du bourreau fut obligé, à l'aide d'un coutelas, d'achever l'exécution. J'ai tenu dans mes mains l'arme fatale. Une dent s'adapterait fort bien au vide laissé par l'éclat qui en a jailli. Ici, une anecdote parfaitement à sa place. Vers l'année 1750, au milieu de la nuit, 3 jeunes gens appartenant à cette haute noblesse qui avait le monopole des vitres cassées, des passants insultés et du guet battu, 3 jeunes gens, de ceux qui faisaient revivre après un trop long intervalle les mœurs si gaies et si en dehors, si insolemment aristocratiques de la Régence, 3 jeunes gens descendaient le faubourg Saint-Martin après un délicieux souper dans une petite maison. Car on soupait alors. Une civilisation rétroactive n'avait pas encore gratté ce bon naturel du vieux temps, où l'on mettait le couvert à l'heure où l'on se couche pour ne l'ôter qu'à l'heure où l'on se lève. Ils avaient soupé, les 3 jeunes gens, et avec gaieté, je vous le jure, un souper qui vous serait compté d'une manière délicieuse par un de nos amis, à vous enivrer comme avec du champagne. Moi, qui ne sais pas compter, je dirais tout simplement qu'après souper, entre 2 et 3 heures de la nuit, ces messieurs descendaient le faubourg Saint-Martin, riant, délirant et surtout causant de cette causerie si amusante quand on ne sait pas ce qu'on va dire et quand on ne sait plus ce qu'on a dit. Ils voulaient ne pas rentrer chez eux avant le jour et aucune maison n'était ouverte. Arrivés devant la rue Saint-Nicolas, ils entendent un son d'instrument, une musique joyeuse, spéciale, qui dit que l'on danse d'une danse folle, instinctive, affreusement bourgeoise. Quelle trouvaille, ils vont pouvoir finir la nuit. L'un d'eux frappe, un homme vient ouvrir, bon, simple, bien vêtu, poli. Le jeune seigneur qui avait frappé s'empresse d'expliquer le motif de cette brusque visite. « Oh, nous sommes montés à la joie, » dit-il. « La nuit a commencé pour nous, délicieuse et folle. Nous allons sans savoir où, quand votre joyeuse fête nous a brusquement arrêtés. Nous serons bienvenus partout où l'on ira. Permettez que nous nous joignions à vos convives. » « Ah, je ne le puis, messieurs, » répond avec une froide politesse le maître du lieu. « Ceci est une fête de famille. Aucun étranger n'y peut être admis. »« Mais vous avez tort. Jamais peut-être meilleure société n'aura fait honneur à votre salon. Mais je vous répète, messieurs, que je ne puis vous recevoir. »« Bah, vraiment, vous ne savez pas qui vous refusez. » « Bon, mais c'est bien un regret, je vous l'assure. »« Faites attention, bonhomme. Nous appartenons à la cour. Nous venons de souper à notre petite maison et c'est un grand honneur que nous vous faisons de vouloir bien achever la nuit chez vous. Encore une fois, messieurs, je suis forcé de vous refuser. Et si vous saviez qui je suis, vous n'insisteriez pas. Vous mettriez autant d'empressement à vous retirer que vous apportez d'insistance à vous faire admettre. Charmant d'honneur, dit le plus empressé, le plus fou. Vous pensez donc qu'il soit si facile de nous intimider ? Messieurs, messieurs, n'insistez pas de grâce. Mais qui donc êtes-vous, bon Dieu ? Je suis le bourreau de Paris. Oh, délicieux ! Oh, comment c'est vous qui coupez les têtes, qui écartelez des membres, qui faites crier des os entre deux chevalets, qui torturez si agréablement les pauvres diables ? Là, là, monsieur, ce sont bien en effet les devoirs de ma charge. Mais je laisse tous ces détails à mes valets. Seulement, lorsqu'un homme de qualité, un seigneur comme vous, messieurs, a eu le malheur d'encourir la sévérité de la justice, je ne laisse pas à d'autres le soin de l'en punir. Il me fait un honneur de l'exécuter de ma main. L'interlocuteur du bourreau était monsieur le marquis de Lally. Et 20 ans après, monsieur le marquis de Lally mourait de la main de ce même homme dont les fonctions lui inspiraient alors tant de folles railleries. Quand je sortis de chez le bourreau, ma poitrine était affreusement oppressée. Petit à petit, l'air vint dilater mes poumons. Il ne me resta plus de toutes ces impressions qui en si peu de temps s'étaient succédées dans mon âme qu'un profond mépris pour notre civilisation et de toutes mes pensées, qu'un seul vœu, la révision de notre code pénal. Une dernière observation qui achèvera de peindre cet homme. Quand je le quittais, après une longue visite qui avait fait disparaître à mes yeux celui chez lequel je me trouvais, et poussé par cet élan naturel qui nous porte au-devant des gens qui nous plaisent, je lui tendis la main. Il recula d'un pas et me regarda d'un air étonné et presque confus. La tabatière me revint à l'esprit et je compris toute sa pensée. La main qui subit chaque jour le contact du crime n'osait pas presser celui d'un honnête homme. James Rousseau.